انترفيو. عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا الآن كما قلت لكم اليوم الصباح السيدة سارة مرسي، مديرة عمليات اي اف سي او اس اف اي في تونس، دونك الاس اف اي سوسيتي فينانسيير انترناسيونال، كان نبسط معناتها ذراع تمويل القطاع الخاص للبنك الدولي. عسلامة، صباح نور، بونجور، بيانفوني اون تونيزي، ميرسي داكسبتي ميرسي داكسبتي نوتر انفيتاسيون سو ماتان. Je rappelle que c'est probablement oui, votre première apparition médiatique depuis que vous êtes à la tête des opérations de la SFI en Tunisie. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la SFI, c'est quoi ?
Alors bonjour Wassim, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. En effet, première apparition médiatique après un mois en poste. Et la SFI, c'est la branche du groupe Banque Mondiale qui finance et conseille le secteur privé.
Et la on mission l'oublie toujours, du groupe, je l'ai dit en fait en tunisien, peut-être j'ai dit qu'à financer, mais c'est vrai, on oublie le côté conseil.
Le côté conseil est important. Ouais, je pense que ça fait partie de notre proposition de valeur et on a un gros portefeuille de conseil en Tunisie, on pourra en parler, les structurants.
Voilà, donc c'est en gros ce que fait la SFI en Tunisie. Alors, si vous permettez, Sarah Morsi, peut-être quelques mots sur votre personne, ce que vous faites, ce que vous avez fait, parce que vous venez pas du groupe Banque Mondiale.
Non, je suis nouvelle, effectivement. Donc, moi, je suis franco-algérienne, donc je m'estime être votre voisine. Et je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Ce qui m'a amenée dans le développement, c'est vraiment toutes ces vacances que j'ai passées en Algérie, où je voyais le décalage, en fait, entre ma vie française très confortable et le peu d'opportunités que trouvaient ma famille et tous les concitoyens algériens. Donc, ça m'a toujours beaucoup questionnée. Et c'est comme ça que je me suis orientée dans le développement après mes études à Sciences Po. Donc moi, je viens du groupe Agence Française de Développement où j'ai passé 14 ans. Et les années les plus... L'AFD, absolument. AFD et Proparco, qui s'occupe aussi du secteur privé. Et les années qui m'ont le plus marqué dans ces 14 ans, c'est vraiment les 6 ans que j'ai passé sur le terrain au Yémen, 2 ans. Et à Beyrouth sur les 4 dernières années, c'était des années en fait très, avec plein de défis. C'est pas facile ni personnellement ni professionnellement de développer une activité dans ces pays. Vous savez que voilà, le Liban a traversé une grande crise et en même temps j'ai trouvé des gens fascinants. J'ai beaucoup appris. Donc
vous étiez au premier rang au Liban justement avec la crise par laquelle passait ce pays. Donc vous étiez Proparco au Liban.
Au Liban, absolument.
Et au Yémen. En plus, qui passait pareil par une crise. Ça devrait vous changer ici, donc je l'espère.
On l'espère aussi.
La situation, on espère qu'elle est... on va vous laisser découvrir. Ça fait un mois que vous êtes là. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le background, pour que les gens apprennent à vous connaître. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de la SFI en Tunisie sur les prochains mois, prochaines années? Ou peut-être avant de parler des priorités, peut-être parler un petit peu du portefeuille
de
actuel,
ce qu'on a fait, oui, bien sûr.
De ce qui a été fait, peut-être.
Donc, ça fait 60 ans qu'on opère en Tunisie et on a investi et mobilisé plus $1 milliard dans ce pays. Ce qu'on a fait, en fait, pour moi, si on regarde le portefeuille actuel, il y a 3 gros piliers. Il y a l'agriculture. Qui représente une part significative du PIB tunisien, 10%, et on a accompagné de gros clients comme CHO, premier huile d'olive, c'est une fierté tunisienne, et VACPA, sur les dates, il y a aussi cette marque de Glatnol qui est importante et qui fait rayonner le pays de par le monde.
Alors, on va peut-être pas parler de Glatnol entre Tunisiens et Algériens.
Ça peut être un bien partagé, il n'y a pas de problème.
on peut dépasser ce,
c'est
d'accord.
Ça,
alors,
je pense.
Oui, donc CHO, VACPA.
Voilà, il y a le pilier entrepreneuriat. Et donc tout le monde, quand on pense à entrepreneuriat, on pense à start-up et on a un programme très très important. Enfin, qu'on
mais c'est
un
surtout
peu...
qu'on pense que l'IFC ou SFI ne fait pas de petits tickets.
C'est vrai, absolument, mais on change, on voit des demandes et en fait, donc nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est le programme Accelerate for Youth. On est en train de communiquer, on est en train de libérer, de publier des vidéos sur ce sujet où on a soutenu 180 startups et 1000 emplois à travers essentiellement des accélérateurs et Flat Six Labs. Mais en réalité, on a une équipe qui est aujourd'hui outillée pour faire des plus plus petits tickets, soit dans des fonds de venture capital, soit dans des startups. Mais bon, petit, ça reste 5 millions de dollars et plus, hein, je tiens à le dire.
C'est ça.
Voilà.
Et donc, du coup, vous pouvez aller vers des institutions qui, elles, ont ce rôle et cette proximité peut-être quotidienne avec les startups. Donc, vous les financez, eux, ils refinancent derrière. C'est bien ça?
Absolument.
C'est la
Et
petite
donc.
parade, si j'ose dire, que vous pouvez, du moins aujourd'hui, avec... voilà. Parce que, en fin de compte, c'est la nature même de votre métier et de votre positionnement. Vous ne pouvez pas aller aussi près, enfin du moins sur des petits tickets. Ce n'est pas une question de ticket qui peut placer 5 millions, on peut placer 1 million, on peut placer 500 000, mais c'est juste une question de temps, de gestion. Et
Et
c'est peut-être pas plus mal de donner des opportunités à des structures plus adaptées à faire leur job en les appuyant financièrement. C'est ça l'idée.
c'est ça l'idée, effectivement. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a des institutions en Tunisie, que ce soit des institutions de microfinance comme Enda, qui est un client,
Ouais.
et des banques. Il y a un secteur bancaire développé qui connaissent mieux le tissu économique que
Ouais.
nous et qui sont plus agiles. Parce que quand on parle à une petite PME qui a besoin de 500 000 dinars, en général, elle a besoin de ces 500 000 dinars dans les 2 mois. Et ça, on ne sait pas le délivrer. Et c'est pour ça que l'activité d'intermédiation est importante, c'est qu'on soutient des intermédiaires, on les renforce pour qu'ils soient en capacité de mieux servir cette clientèle. Donc moi, je salue particulièrement le travail d'Enda sur ce plan-là, mais il y a beaucoup à faire avec les banques et on souhaite reprendre. Le troisième pilier, peut-être Wassim, qui nous a occupés jusqu'à présent, c'est les infrastructures. Et on est vraiment très fiers d'avoir signé en septembre dernier le projet Karwan Solar. Donc c'est un parc solaire de 120 MW. C'est le premier parc solaire tunisien qui va être développé par Amea Power, un acteur privé des Émirats Arabes Unis. Et pour nous, ça envoie un signal au marché que la Tunisie est sur la voie de la transition énergétique et peut attirer des investisseurs privés malgré une conjoncture qui n'était pas extrêmement favorable.
Très bien. Alors, il y a pas mal d'auditeurs qui sont en train de réagir, mais sur ces questions justement de tickets, est-ce que ça va évoluer? On parle peut-être pas de start-up, mais d'aller, parce qu'aujourd'hui, le ticket minimum, vous avez dit 5 millions, c'est bien
Oui,
ça? C'est toujours 5 millions.
Est-ce que ça va évoluer? Je ne veux pas faire de promesses et décevoir. Il y a toujours des exceptions, mais encore une fois, je pense que quand on prête un client, on a énormément d'exigences de reporting, de demandes d'informations. Donc ça exige une certaine sophistication. Je ne sais pas si c'est rendre service aujourd'hui pour moi d'envoyer le message à la PME tunisienne qui peuvent venir nous demander 1 million de dollars parce que le process va être long pour eux et aussi
C'est ce
lourd
qu'on dit
quelque
aussi.
part. Donc
C'est vrai.
voilà.
Alors, par rapport à justement, enfin aujourd'hui, avoir la FCEC qui finance ou qui est, enfin c'est du financement, enfin vous êtes dans le capital aussi, ou vous
On
financez.
peut être au
Voilà.
capital d'entreprise, absolument.
Voilà, donc avoir la FC, c'est une sorte de label aussi, de garantie. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce que vous venez de dire qui garantit que cette entreprise est en si bonne santé qu'elle a pu prétendre un prêt ou avoir carrément la FC en tant qu'actionnaire. Donc aujourd'hui, quand vous avez trouvé la petite parade pour les startups via des institutions, est-ce qu'il y a une autre façon qui est en train d'être étudiée? Je cherche le scoop, hein, bien évidemment. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre façon qui est étudiée par rapport aux PME, par rapport à aussi ce dossier de restructuration? Il y a pas mal de belles PME, mais qui sont en difficulté. On le sait, c'est celles qui ont le plus souffert ces dernières années. On parle énormément de restructuration. On sait qu'il y a parfois des lignes de crédit, de sortes de financement, enfin via l'État. Là, il y a une initiative très 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 bientôt de la CDC, il me semble, qui va être annoncée bientôt. Voilà. Est-ce que via ce type peut-être d'initiative, vous pouvez vous greffer en cofinançant un fonds de restructuration, par exemple?
Effectivement, c'est une problématique. Tout le monde me parle du besoin de restructuration des PME tunisiennes qui ont été très affectées par le Covid, mais pas que, hein. On sait que les temps sont durs quelque part. On y réfléchit, on est prêt à se positionner. À la SFI, on a des solutions de
Ah
restructuration,
donc
mais
ça existe.
ça existe. Ça existe. C'est possible de les déployer en Tunisie. Maintenant, il faut engager un dialogue avec la Banque centrale, le gouvernement, et voir si c'est le souhait de déployer cette solution-là. Parce que nous, on apporte des solutions, mais il y en a d'autres, hein. Le sujet est sur la table. Ce que je voulais signaler aussi, c'est qu'il y a tout un programme de la Banque mondiale, de la BEI et de l'AFD qui a vocation aussi, à travers des lignes de crédit au gouvernement tunisien qui sont ensuite reprêtées à des banques, de
Tout
contribuer
à
aux
fait.
efforts de restructuration sur le secteur. Donc, quelque part, le groupe est déjà positionné.
Oui, ça c'est sûr. Mais dans le groupe, il y a la Banque mondiale et l'AFC, on veut tout avoir.
Ouais. Absolument.
Merci à vous. Alors, restez avec nous. نمشيو فاصل قصير راجعين باش نحكيو على عديد المواضيع. مازلنا مع ضيفتنا سلمى مرسي، نذكروا ممثله جديده والمسؤوله على عمليات الاس اف اي سوستي فينانسي انترناسيونال، ذراع تمويل القطاع الخاص البنك الدولي في تونس. كم زينكم مبروك. حاضرة معنا كما قلت لكم اللي تحقوا بنا الآن السيدة سارة مرسي، مديرة اي سي في تونس، ذراع تمويل القطاع الخاص للبنك الدولي. نواصلوا مع الحوار في الجزء الأول لأنه أول ظهور إعلامي ليها وعندها شهر في المنصب نتاعها، دونك تعرفنا عليها على اللي تحقوا بنا في كلمتين. معناتها الباك جراوند نتاعها ما كانتش في الجروب بنك مونديال، دونك كانت في الجروب اف دي في برو باركو، خدمة في اليمن في السنوات الأخرى في لبنان. دونك اليوم موجوده في تونس ولكن دخلت جديده تسمى في الجروب بنك مونديال. حكينا زاد على شنو اللي تعمل لايف سي في تونس، وتذكروا كان معنا جورج غره في اخر حوار ليه، ولين دونك سمعنا دونك فما بوزيسيونمون على في قطاعات مختلفه كما الفلاحة والاستثمارات مختلفة اليوم يوصلوا حتى يمسوا الستارت اب ولكن طريقة غير مباشرة فيا دي 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 بروغرام. حكيت على يوث اكسلريتور، دونك نجموا للي مهتمين بتاعت الستارت اب تشوفوا يا با مال دو فيديو قالت، دونك نجموا تطلعوا عليهم. فوالا جي سي دو ريزومي بتيت فو كومبريني با تو مي فو كومبريني لي مو كلي لي مو كلي فوالا اي سي يوث اكسلريتور فوالا. Alors parlons de l'actualité récente, publication de rapport. Alors, il y a deux sujets aujourd'hui, le rapport sur le climat, si je devais si je devais peut-être simplifier le titre de ce rapport, et il y a cette question d'ESG qui est la question montante où toutes les entreprises aujourd'hui s'intéressent d'une manière intéressée. Ou beaucoup plus intéressé, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un luxe, ce n'est plus quelque chose de sympathique qu'une entreprise essaye de faire parce qu'on veut faire du bien, ça devient presque une obligation. Donc voilà comment faire face à tous ces défis. On commence ESG, de toute façon c'est lié.
Commençons. Ensuite on parle peut-être ESG,
voilà, et le rapport peut-être hier. Et je rappelle que Express FM ratat donc Smart Wakid Bad Tasrihat Ma Hejer Boujema. Alors, ESG.
Donc l'ESG, effectivement, c'est une bonne semaine pour nous. Hier, on a signé notre programme ESG avec trois partenaires tunisiens. Donc, il y a la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, il y a le groupe Honoris qui s'occupe de la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, et l'ITA, Institut tunisien des administrateurs. Et l'objectif du programme, c'est d'aider vraiment toute la place à se mettre aux normes ESG. Donc la réglementation tunisienne n'est pas encore très forcément très contraignante. Donc il n'y a pas une incitation réglementaire locale puissante, ça peut venir, hein. Mais ce qu'on voit c'est que de plus en plus les pays qui sont les destinations d'export de la Tunisie imposent un reporting et un cadre minimal à leurs fournisseurs tunisiens. Donc ça c'est une chose, et je pense que ce qui est aussi intéressant et critique pour le tissu des entreprises en Tunisie, c'est la gouvernance. Parce que j'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires depuis que je suis là, et c'est beaucoup d'entreprises familiales. Et donc dans l'entreprise familiale se pose toujours la question de la succession, de comment organiser les relations entre l'actionnariat, le management. Et sur la gouvernance, c'est vraiment un sujet de pérennité clé des entreprises sur lequel on souhaite travailler. Et il y a beaucoup de demandes là-dessus. Voilà.
D'accord. Ça, c'est sur. Il y a énormément de demandes, je comprends, mais comme je disais aujourd'hui, c'est presque une obligation. Hein. Ce n'est plus genre un choix, ou ce n'est plus un luxe, ou on le fait pour faire du bien. C'est obligatoire.
Oui, c'est obligatoire, notamment, encore une fois, je le disais, pour les exportateurs tunisiens, mais aussi pour les entreprises qui souhaitent attirer des investisseurs, puisque tous les investisseurs qui sont internationaux vont devoir regarder cette dimension. Et de la même manière que le climat, si ça peut offrir une transition, c'est obligatoire, parce que ce soit à l'IFC ou chez toutes les institutions financières de développement, on regarde désormais si les projets sont alignés avec l'accord de Paris. Et donc avec une trajectoire du monde, avec un réchauffement à moins de 2 degrés. Donc effectivement, c'est quelque chose qui s'impose. Et l'idée du projet, c'est que les entreprises ne soient pas en train de subir ces exigences, mais se les approprient et en dérive de la valeur. Au final, ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément un papier ou un rapport qui soit créé au niveau d'une entreprise, c'est des changements de pratiques qui aident à pérenniser les entreprises et qui aident aussi à créer de la valeur et donc de la rentabilité pour elles.
Très bien. Alors, le rapport sur le climat et le développement en Tunisie, voilà le nom complet, c'est bien ça, qui a été lancé hier. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport ?
Alors, ce rapport, c'est une publication conjointe avec la Banque mondiale qui, en fait, éclaire quels sont les impacts du changement climatique sur la Tunisie. On regarde notamment l'impact sur la croissance. Voilà, aujourd'hui, en Tunisie, sur le premier semestre, la prévision de croissance, elle a été divisée par deux à cause de la sécheresse. Donc voilà, on est en train de parler de problématiques actuelles qui montrent aussi l'impact sur la productivité, la création d'emplois. Et ce que le rapport essaye de faire, c'est montrer quels seraient les coûts de l'inaction. Et ils sont très importants. Mais on ne dit pas que la Tunisie n'est pas en train d'agir, au contraire, il y a déjà des choses. Et qu'est-ce que le pays, comment le pays peut bénéficier d'actions et d'investissements pour s'adapter et atténuer les effets du changement climatique? Et il y a une partie secteur privé, puisque c'est notre domaine, qui illustre aussi les risques et les opportunités. Et nous, là où on voit des opportunités, je voudrais parler de trois domaines. Il y a très clairement l'agriculture. Bon, voilà, encore une fois, on vient de traverser une période de sécheresse, de fortes températures. Et on trouve qu'il y a une grosse opportunité d'améliorer les techniques d'irrigation en Tunisie. Et peut-être aussi d'explorer le dessalement. Et certains sont déjà en train de le faire. Donc, il y a des champions locaux, il faut les mettre en avant. Et l'idéal serait que ça suive pour que les producteurs ne souffrent pas. On travaille aussi à quelque chose moi, qui m'enthousiasme beaucoup. Il y a un atelier le 6 décembre sur ce sujet. C'est l'assurance, la micro-assurance indexée pour les agriculteurs. Donc, c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est que si la pluviométrie est en deçà d'un certain niveau ou si les températures dépassent un certain niveau qui ont un impact sur leur production, les agriculteurs peuvent être compensés. Donc ça, c'est des sujets qui nous occupent. Il y a un deuxième grand axe, une opportunité formidable pour la Tunisie, c'est les énergies renouvelables. Voilà, il y a un taux d'ensoleillement incroyable dans ce pays, un gros potentiel éolien. Et donc le gouvernement a lancé un appel d'offres d'1,7 gigawatt pour augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable. Et nous, on est positionnés pour le financer. Et troisième axe, c'est la décarbonation des industries. Et donc comment les industries qui exportent aujourd'hui en Tunisie peuvent diminuer ou faire un usage optimal de leurs ressources pour en dériver un avantage compétitif.
Alors, je vais essayer d'interagir. Il y a pas mal de questions qui arrivent depuis 20 minutes. Donc, il y a une question qui est arrivée tout à l'heure, mais qui était bien inspirée, parce qu'il y a un lien avec tout ça. On vous demande sur vos investissements la question de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'impact investment. Donc c'est ce que vous faites, comment vous le faites, de l'investissement impact, est-ce que voilà, vous cherchez des projets dans lesquels vous allez être, qui ont de l'impact, comment, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est des nouvelles notions, on parlait tout à l'heure de l'ESG qui est une obligation qui n'est plus, parce que si on en parlait il y a quelques années, oui, ça serait bien que le projet puisse avoir, mais... Pour l'impact aussi, c'est obligatoire aujourd'hui.
C'est une excellente question. Donc nous, systématiquement, on regarde les impacts des projets. Financer une entreprise qui est rentable parce qu'elle est rentable, ça ne nous intéresse pas. S'il n'y a pas un impact positif en termes de création d'emplois, encore une fois, en termes de mise au standard, ça peut être ESG, mais ça peut être aussi des standards industriels, etc. On ne va pas y aller. Donc pour nous, tout projet, quand on passe à un comité, il doit avoir une thèse d'impact. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, quelque part peut-être dans les médias ou sur la place tunisienne, mais qui fait vraiment partie de notre ADN. Ce qu'on voit à l'échelle du monde, c'est que maintenant, c'est pas que les institutions financières de développement comme l'IFC qui s'occupent de l'impact, c'est qu'il y a même des acteurs et des flux financiers privés qui mettent l'impact un peu au cœur de leur action.
Très bien. C'est très important aujourd'hui la question de l'impact, et on le voit d'ailleurs dans les questions. C'est très important aussi pour toute une génération aujourd'hui qui commence à être dans le monde de l'entreprise, qui ne sont plus si jeunes que ça, pour lesquelles les questions d'impact sont très très importantes. Alors, pour revenir sur le rapport, aujourd'hui, quand on parle de climat, des changements climatiques aujourd'hui, on parle de de green finance aussi, enfin, pour vos financements, c'est lié à la question de l'impact. Qu'est-ce qu'on apprend sur le futur de vos investissements en fonction de ces changements climatiques, justement? Si vous faites ces rapports aussi, c'est pour vous aussi pareil, c'est pour mieux comprendre le
Absolument.
monde et les changements qui opèrent sur le monde aujourd'hui.
Écoutez, en fait, les trois axes du rapport, c'est effectivement les trois axes qui vont nous occuper sur les prochaines années. J'ai parlé d'agriculture et du potentiel, c'est plus qu'un potentiel, de l'importance que ça représente pour l'économie tunisienne. Cette année, on a un pipe de 100 millions de dollars d'investissement au bénéfice de deux entreprises agricoles. Et on va regarder, vous me disiez tout à l'heure, vous faites que des gros tickets, c'est vrai, mais ce qu'on fait à travers ces entreprises-là, c'est aussi remonter la chaîne de valeur. Et donc on regarde quels sont les petits agriculteurs qui les financent, comment on peut améliorer leur technique d'irrigation. Ça, c'est des activités de conseil qu'on fournit et qu'on va continuer de fournir. Il y a les énergies renouvelables, mais pas que. J'ai entendu que le gouvernement considérait le dessalement, par exemple. Eh bien, nous, ce qu'on voit sur la région Afrique du Nord et même au-delà, c'est que le secteur privé a des solutions en matière de dessalement. Le secteur privé peut attirer de la dette, construire, opérer une usine de dessalement. Donc, si ça fait partie des options qui doivent être considérées, on est prêt à soutenir. Et puis, je parlais de décarbonation des industries qui peut paraître comme ça être un terme un peu technique.
C'est important, sinon elle sera plus concurrentielle et elle peut être amenée à mourir, désolé de le dire d'une manière aussi franche de bon matin,
Voilà, c'est ça.
parce qu'il va y avoir des restrictions sur... C'est pour ça que vous parlez des entreprises exportatrices tout à l'heure
Absolument.
et de celles qui comptent attirer des investissements. Aujourd'hui, on parle de green finance, qui était dans ma question. Allez-y donc justement
Eh
sur
bien,
ces
ça, c'est
questions-là.
des entreprises. On n'a pas encore un projet très clair en tête, mais ça va être un axe de développement important pour nous. Et ce qu'on fait d'ores et déjà, c'est des diagnostics d'efficacité énergétique. Là, on a travaillé avec un peu le fleuron de l'industrie pharmaceutique en Tunisie et on a regardé comment ils utilisaient l'énergie, l'eau et les intrants, donc la matière première de leur production. Et on les positionne avec des benchmarks, donc on les compare à toute la région et même aux meilleures pratiques dans le monde. Et c'était très parlant parce qu'il y en a qui se débrouillent très très bien, notamment sur l'énergie. Il y a toujours des améliorations à faire et il y a des investissements qui peuvent améliorer leur empreinte climatique carbone et améliorer leur rentabilité en même temps. Donc on essaye vraiment d'essayer de faire en sorte que cette adaptation au changement climatique soit aussi bénéfique pour elles.
Alors pour terminer, quelles sont les priorités de votre mandat? Ça reste un mandat, que ce soit à titre personnel, mais également enfin le contrat pour lequel vous êtes là. Donc quelles sont les priorités? Bon, c'est juste peut-être résumé parce qu'on a parlé de pas mal d'entre elles, je pense, là.
Oui, on a parlé de pas mal de priorités. Bon.
Si on devait voilà les classer comme ça, parler de trois ou quatre priorités, ça serait lesquelles? On va terminer avec ça.
Je pense.
C'est le contrat en fait, pour que quand vous venez la prochaine fois, vous vous demandez vous avez fait quoi sur ces questions.
Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, moi, je pense que la priorité, c'est de continuer à se développer. Encore une fois, on est sur une conjoncture économique pas facile et donc on veut pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Je vais parler d'agriculture, je pense qu'il y a des choses à faire en pharmaceutique, l'industrie électrique. Je trouve que le tissu industriel est très profond en Tunisie et on doit pouvoir trouver un client ici. Et il y a la question de l'entrepreneuriat qu'on souhaite continuer à développer. Donc ça va être deux grands axes très structurants. Enfin, j'ai l'impression de me répéter un peu.
C'est la question de...
Ça peut être. En fait, on souhaite passer. Là, on a financé des accélérateurs, on a financé Flat Six Labs. Le souhait, c'est d'être plus présent sur le volet investissement. Et donc,
Impact Partner aussi, etc. Enfin, voilà,
absolument.
vous êtes en train de... Mais le volet investissement, ça c'est excellent.
Voilà.
Ce serait une excellente nouvelle pour l'écosystème entrepreneur, on a
Ouais.
des perles et qui sont obligés de partir à l'étranger, ou du moins parce que voilà, ou de faire des levées à l'étranger, ou parfois ils ont besoin de faire les levées ici. On n'a pas besoin de voir rien. Enfin bon, ça c'est un long débat, quoique. Des secteurs en particulier, vous avez parlé d'agriculture, vous avez parlé peut-être l'énergie, peut-être voilà
L'énergie,
sur.
c'est sûr. Énergie, même infrastructure, parce que quand même,
C'est ça.
ça fait 10 ans que la Tunisie est en train de sous-investir dans ses infrastructures. Et donc, quand on pense par exemple aux ports, ça devient un problème de compétitivité quasiment nationale, quoi. Donc, il y a des choses comme ça. Nous, on s'aligne avec les priorités du gouvernement. On pense qu'il y a vraiment matière à faire là-dessus. Et on n'en a pas parlé parce qu'on est sur une radio tunisienne, mais il y a aussi la Libye, où on souhaite faire davantage. Donc je tiens à le signaler parce que je sais que il y a des relations économiques déjà existantes avec des acteurs entre Tunisiens et Libyens. Donc s'il y a des acteurs tunisiens qui souhaitent s'intéresser à la Libye, moi, je suis à leur disposition. Et il y a un sujet aussi, Wassim, qui est important, c'est que avec la situation économique de la Tunisie, moi je vois de plus en plus d'acteurs qui se disent il faut qu'on se régionalise, il faut qu'on pense à l'échelle africaine. C'est déjà le cas de certaines entreprises, hein, notamment on a comme client OneTech, acteur industriel, qui est déjà au Maroc. Ça, c'est des dynamiques qu'on peut accompagner et où on peut apporter de la valeur parce qu'on est présent à l'échelle de tout le continent.
Merci à vous, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Je rappelle Sarah Morsi, vous êtes la nouvelle directrice de la SFI, Société Financière Internationale en Tunisie, donc SFI, voilà, FC Belanglisia, Dira Tamwil Qita Al-Khas, les banques d'Ouali. Bon courage pour votre mission, ça fait un mois que vous êtes là, voilà, on a appris à vous connaître et à comprendre un petit peu vos priorités, les sujets sur lesquels vous allez travailler, peut-être essayer de faire plus de tickets. Vous l'avez dit tout à l'heure en souriant, vous avez dit il y a au moins certainement une entreprise à financer ici. Moi, je vous garantis qu'il y en a beaucoup plus. Mais après, voilà, il faut. Je sais que les process peuvent être, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, un peu compliqués. Mais il y a de très très belles perles ici en Tunisie qui ont besoin de ces financements-là pour des grosses expansions à l'international. Et je suis sûr que vous allez les découvrir. Merci beaucoup. Bonne continuation.
Merci Wassim, à bientôt.
Chocolat.